Avant de commencer, une courte publicité pour vous présenter notre sponsor pour cette saison, Elinoy. Elinoy, c'est un incubateur qui aide chaque talent à trouver le job de ses rêves. Notre histoire commune y a commencé il y a bien longtemps, quand j'ai tendu mon micro à Héloïse pour décrypter ensemble le métier de sales. C'est donc naturellement que je les ai associés à cette saison. Pour trouver son premier job, il y a généralement deux catégories de personnes. Ceux qui ne savent pas du tout et qui postulent partout, et ceux qui font sans prendre le temps de regarder les autres options. Dans les deux cas, ils finiront souvent par le regretter. Elinoy parle à ses profils tous les jours. Ils ont développé un accompagnement qui permet de garder le meilleur des deux mondes, s'ouvrir à des pistes que l'on n'aurait pas considérées soi-même, tout en économisant son énergie pour postuler uniquement à des postes qui nous ressemblent vraiment. L'accompagnement est complètement gratuit et personnalisé. Vous aurez un talent manager dédié qui va vous coacher, vous former, vous proposer des offres de job et vous accompagner pour réussir vos entretiens et négocier votre salaire. Bref, il va vous donner tous les conseils pour prendre une bonne décision. Vous pouvez directement vous inscrire sur leur site elinoy.com ou pour les plus fémards, je vous laisse le lien en description du podcast. Allez, la pub est finie, profitez bien de cet épisode.
Propulsé par Vocation.
Je suis Jasmine Manet, bienvenue sur Vocation, le podcast qui informe, inspire et célèbre la nouvelle génération qui veut s'épanouir dans sa carrière. Mon invité du jour, Sébastien, plus connu sous le nom d'Agoria, est producteur, compositeur et DJ de musique électronique. Il a grandi dans une banlieue lyonnaise et a priori tout le destinait à un parcours assez classique. Sauf qu'il n'aimait pas l'école et n'aimait pas les options qu'on lui proposait. Mais grâce à sa famille, il a grandi en musique. Et il aimait ça plus que tout, surtout la musique électronique qui commençait tout juste à ce moment-là. Alors pour répondre à un pari avec des amis, il joue une première fois, puis continue à des soirées. Et en 93, âgé de 17 ans, il se retrouve à jouer dans un club en première partie des DJ Richie Hawtin et Carl Cox. Ça va peut-être vous parler. Après le bac, il va à l'université mais abandonne au bout de 3 mois, bien plus intéressé par les soirées et traîner dans les magasins de disques. Jusqu'à ses 23 ans, il fera des études de cinéma avant de se consacrer pleinement à sa passion, la musique. Aujourd'hui, il a 46 ans, il vit de sa passion et s'en découvre de nouvelles, comme celle du Web 3, du métaverse dont on a parlé un petit peu. Sébastien est génial, j'ai adoré notre échange, probablement très différent de tous les autres que j'ai eus précédemment. Alors merci de m'avoir ouvert les yeux sur un autre monde que celui que je connaissais. À vous maintenant de découvrir son histoire. Pour nous suivre, rendez-vous sur Instagram @vocation.co. Et Sébastien, foncez écouter son dernier album. Bonne écoute!
Bonjour Sébastien.
Enchanté. Ravi d'être avec toi.
Moi aussi. Est-ce qu'on peut commencer par une petite question préliminaire? Qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais enfant?
Écoute, je crois que j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps, parce que mes parents, j'étais un très mauvais étudiant, un très mauvais écolier. Donc ils avaient voulu un peu me mater en me mettant dans une école de curés qui s'appelait les Maristes à Lyon, parce que je suis originaire de Lyon. Où c'était l'enfer, tu vois, il y avait genre une heure de religion par semaine, une heure de catéchisme, une heure de messe, enfin, tous les trucs qui te font pas rêver. Et d'ailleurs, c'est peut-être comme ça que j'ai pas mal tourné, mais je me rappelle, donc j'ai trouvé là, il y a pas très longtemps, le bulletin où on te demandait un peu ce que tu rêvais de faire. Et à l'époque, je crois que j'avais dit, comme j'étais un dingue de musique, j'avais dit que je voulais être chanteur. Et que je voulais... Enfin, tu vois, c'était ça que j'avais répondu. Et ma mère était chanteuse d'opéra. Et donc, tu vois, pendant, quand j'étais tout bébé, elle me dit « Oh, mais t'as une très belle voix !» Et en fait, il s'avère que pas du tout. Je suis pas du tout un bon chanteur, je chante très faux. Et donc, ma carrière n'a jamais débuté. Et en fait, c'est ce qui m'a peut-être aidé aujourd'hui à faire de la musique électronique, finalement.
Mais justement, je suis curieuse que tu me racontes ta relation à la musique et comment ça a commencé. Et ça va nous amener à aujourd'hui, évidemment. Mais c'est quoi pourquoi tu me dis que tu étais un passionné de musique dès l'enfance? Forcément, il y a ta mère qui a l'air de t'influencer. Mais si tu devais me raconter justement ta relation à la musique, enfant, adolescent, jeune adulte, adulte.
Écoute, quand j'étais enfant, j'avais un manche-disque Fisher-Price dans lequel j'insérais plusieurs disques en même temps. Donc déjà, ça marchait pas, parce que c'était pas, je pouvais pas encore être DJ à cette époque et mélanger plusieurs morceaux en même temps. Mais je voulais vraiment mettre 5-6 à la fois dans le manche-disque. Donc ça, c'était un petit souvenir d'enfance. Et adolescent, j'étais beaucoup plus en opposition, forcément, avec ce que ma famille et mes parents pouvaient écouter. Et évidemment, tu vas pas quand même pas écouter ce que tes parents écoutent, la loose, quoi. Et surtout quand c'est de la musique classique et que t'entends des vocalistes toute la journée... À la maison, tu veux faire complètement autre chose. Du coup, je pense que la musique électronique est arrivée après que j'ai essayé le piano, après que j'ai essayé la batterie, après que je me sois mis au solfège, et où tout ça était quand même pour moi d'un ennui énorme, Même si je dois avouer qu'aujourd'hui, je regrette d'avoir arrêté le piano, parce que je pense que ça m'aurait aidé quelque part et ça m'aurait rendu peut-être plus à l'aise sur scène. Mmh. C'est aussi grâce à ça que je suis rentré les deux pieds dans la musique électronique et que j'ai commencé à me sentir en symbiose avec les rave parties, avec l'essor de cette musique instrumentale où il n'y avait justement pas de paroles, pas de chansons, pas de voix. Et c'était une musique qui était très décriée, c'était une musique qui était interdite. Mmh. Donc forcément, ça rajoute un peu de piment. Quand tu n'as pas le droit de danser sur la musique électronique, quand tu n'as pas le droit d'en faire, quand tu n'as pas le droit de, même d'aller à une soirée, enfin, on était un paria. Je me souviens quand même que chaque fois que j'allais chez mes petites amies de l'époque et qu'elles racontaient que j'étais DJ, en général, la belle famille disait mais qu'est-ce que tu fricotes avec Sébastien ? Non mais oublie, trouve un autre mec. Tu vois, ils avaient peur. Forcément, je fais très très peur. Donc,
je confirme.
Donc, tu vois, c'était le. Ouais, fais pas la manine, j'espère que t'as peur. Donc, voilà, c'était vraiment ça le point de départ. Et les rêves partis, le fait de jamais savoir ce qu'on allait vivre, c'était quand même plutôt excitant.
Et comment est-ce que t'as rencontré cet univers-là ? Du coup, t'étais étudiant, je suppose, comme tout le monde, jusqu'à la fin du lycée. Est-ce que tu peux me raconter aussi ton parcours personnel et du coup, presque académique et professionnel ? Comment ça s'est fait ? Est-ce que c'était en même temps ? Est-ce que c'est quelque chose que t'as poursuivi dans tes études ou c'était à côté ? Comment t'as construit en fait cette posture de le faire comme métier et pas comme un à côté et un projet parmi d'autres ?
Alors, je crois que en fait, ce qui m'a amené à faire ça, c'est la radio. Je faisais beaucoup de radio. J'avais une petite émission radio associative quand j'avais 14-15 ans, où on faisait des émissions et où forcément j'étais au contact de plein d'animateurs qui, comme moi, étaient passionnés de musique. Et donc, t'es entouré de gens qui aiment des fois le métal, des fois le punk, des fois le rock, des fois le reggae. Et toi, t'es un fan de techno. Et donc, bah forcément, ça crée un peu des clashs. Et on se chambrait beaucoup. Et néanmoins, je pense que l'ouverture que j'ai sur la musique, même aujourd'hui, et pourquoi j'ai fait des albums très différents les uns des autres, ça vient de ces années radio où j'ai été imbibé de plein de cultures différentes. Et il n'y a pas une culture qui est meilleure que l'autre. Je pense qu'il y a vraiment des choses bien dans chacune de ces cultures. Et pour la posture, j'ai jamais eu la posture de me dire je vais faire ça. J'ai eu cette chance. Okay. C'est une chance, en fait. Ça s'est fait naturellement. Et c'était même plutôt l'inverse. Quand j'avais 20 ans et que donc, je commençais à jouer en tant que DJ un peu partout, je me disais, bon, je vais faire ça jusqu'à 25 ans. Quoi. C'est pas un métier très sérieux. Puis à force qu'autour de moi, tout le monde me disait, tu peux pas faire ça, c'est pas un métier, oula, ça va pas marcher. Enfin, et tu te rends compte quand même que t'es dans une voie sans issue. Enfin, à chaque fois, les gens me racontaient la même chose. Tu vois. Je faisais des études de cinéma en parallèle.
Okay.
Qui était mon autre passion. Et en fait, à 25 ans, je me suis dit, je vais faire ça encore 5 ans, jusqu'à 30 ans. Et puis, à 28 ans, je sors un album. Cet album marche très bien. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai 45 ans. Ça fait 25 ans que je fais ça, que j'adore. J'adore être sur scène, j'adore jouer, j'adore voyager. Même si, évidemment, le rythme que je m'impose ne peut pas être le même que quand j'avais 25 ans. Mais voilà, il n'y a pas eu une posture à un moment donné de me dire... je vais faire ça toute ma vie. C'était plutôt l'inverse. C'était plus... je me disais que ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Du coup, voilà. Mais c'est sans doute ce qui était mon moteur.
Et c'est le regard des autres, donc beaucoup qui... Ou en tout cas, soit leur peur qu'ils projetaient sur toi ou une vision de la réussite un peu globale d'un écosystème qui te bridait peut-être un peu ou en tout cas qui te permettait pas, de dire « j'assume, voilà, c'est mon métier ».
Ouais, je crois que j'étais j'étais d'un milieu un peu provincial, plan-plan, où t'es entouré de gens qui ont quand même des schémas de vie préconçus, préécrits, et qui sont dans une sorte de chemin qui est malheureusement déjà quasiment écrit avant même qu'il commence. Et donc quand toi, tu prends une route qui est un petit peu différente, un peu marginale, et que t'essayes d'aller au bout de tes envies, et que finalement, tu te poses pas la question et tu fais ce qui te plaît, bah forcément, ça crée des... Voilà, le regard des autres te fait parfois te questionner, mais en même temps, ça te conforte dans l'idée de te dire « t'as bien fait ». Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de mes amis qui regardent mon parcours avec tu vois, avec une sorte d'un peu d'ironie de leur propre position de l'époque, où ils se disent bon, on s'est bien planté et finalement on aurait peut-être nous aussi dû. Ils ont une sorte de regret, tu vois, parce que je pense qu'il y a les schémas classiques sont tout aussi compliqués finalement que les schémas artistiques. On dit souvent que le schéma artistique est un schéma qui est très dur. On dit souvent que c'est voilà, tu vas en baver, ça va être compliqué. Mais je pense qu'il n'y a aucun schéma qui est simple. Je pense qu'il n'y a il n'y a pas de recette. Et si on fait déjà quelque chose qui nous plaît un minimum, on va quand même accepter plus souvent l'échec, on va quand même accepter plus souvent que ce soit compliqué ou qu'il y ait des désillusions. Et puis je pense que voilà, personne n'est devin, personne n'est un oracle. Enfin, je le suis un peu plus que les autres, mais, mais tu vois, il y a la vision de savoir ce qui va se passer même dans 5 ans. Je pense que c'est très compliqué. Donc je pense qu'il faut surtout s'écouter et pas hésiter à prendre des risques.
Ouais, décomplexer cette première étape en fait de transition étudiant professionnel, si on peut le dire comme ça, et en fait démystifier le côté il faut faire les bonnes choses au départ, suivre une voie toute tracée et sortir un peu du chemin, si ce n'est que expérimenter en fait, et voir si c'est un quotidien qu'on a envie d'avoir, parce qu'on va y venir. Mais c'est je pense qu'il y a une vision de l'artiste que tu pouvais avoir avec une réalité qui est peut-être assez différente, qui a sûrement beaucoup évolué sur les 25 dernières années, et qu'on composait pour que tu sois toujours heureux de faire ce que tu fais, passionné, heureux de te lever le matin. Ça doit être aussi, quelle que soit la profession, c'est difficile. Donc comment est-ce que tu as vécu cette construction d'un métier passion peut-être, qui reste quelque chose que tu adores faire, mais qui soit aussi ton gagne-pain, ton métier en fait.
Ouais, mais je le voyais pas comme ça.
Ouais.
Je me suis jamais dit ça, j'allais vivre de ça, que tu vois, pas une seule fois je me suis dit que j'allais pouvoir avoir des cachets comme je peux avoir aujourd'hui. Quand j'avais commencé à 20 ans, c'était inimaginable. Le quotidien, c'était plutôt pour moi d'aller devant le disquaire, d'être certain de pouvoir acheter un disque parce qu'il y avait que 3 exemplaires, de se dire quelle allait être la bonne teuf du week-end. Je pense que le...
C'était très au jour le jour.
Ouais, c'était très organique. Et je crois quand même qu'au fond de soi, on sait ce qui peut nous faire plaisir, on sait ce qui peut nous intéresser. Et je pense que la curiosité reste, à mon avis, la meilleure façon de trouver sa voie. Je pense que il faut aller un peu au-delà de ce qu'on essaie de nous montrer, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les médias, que ce soit dans un environnement parental, dans un environnement bourgeois ou dans un environnement ghetto. Dans n'importe quel des environnements, on a toujours un moment donné où on te dit ce qu'il faut faire, on te dit, ou toi tu te dis voilà, j'ai des cloisons, je dois être là-dedans. Et en fait, la curiosité, souvent, sans t'en rendre compte, ça t'amène ailleurs. Donc c'est un peu pour moi ça a été en tout cas le secret, c'est d'être toujours aux aguets.
Curieux. Tu peux me donner un exemple, peut-être surtout en début de parcours, de cette curiosité qui a porté ses fruits?
En fait, j'étais très très timide. Alors qu'aujourd'hui, je ne suis pas du tout. Enfin, je crois pas. Mais j'étais vraiment timide, c'était maladif. C'est-à-dire que quand j'allais dans une teuf, je restais vraiment à côté de la cabine du DJ, quoi. J'étais le mec avec ses petites lunettes qui regardait ce que le DJ jouait, et tu vois, j'osais pas trop bouger parce que je trouvais que je bougeais mal. Tu vois, j'étais quand même un peu entouré de complexes. Enfin, tu vois, c'était pas super easy au début. Et puis j'étais quand même entouré de gens qui étaient sans doute plus âgés que moi, beaucoup plus âgés que moi. Donc tu vois, je pouvais parfois être un peu le souffre-douleur de leurs blagues. Et en fait, je pense que je me suis forgé comme ça. Et ma curiosité m'a amené en fait, de façon détournée, à leur dire, regardez, finalement, je leur ai proposé d'autres choses. Je leur ai proposé d'autres musiques, je leur ai proposé d'autres soirées, je leur ai proposé d'autres schémas. Et en fait, petit à petit, le cercle s'est inversé, où c'est eux qui venaient vers moi et qui ont voulu me suivre. Donc je pense qu'il faut accepter ses faiblesses. C'est parfois pas easy, mais je pense qu'il faut les accepter. Et c'est sans doute de ces faiblesses-là, et c'est sans doute de ce qu'on nous reproche, que va se construire quelque chose d'intéressant.
Prendre le contre-pied de tes propres limites.
Parce qu'en fait, ce que les gens voient en faible chez nous, c'est souvent quelque chose qu'ils ne comprennent pas.
Ouais.
Et donc, quand il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas, ils aiment bien le montrer du doigt, ou ils aiment bien un peu gratter là-dessus. Et personne ne comprenait ma passion pour la musique électronique.
C'est vrai ?
Absolument personne. Ah non, mais j'étais un paria. Enfin, à l'école, les gens me prenaient pour un dingue. Déjà parce qu'en fait, je rentrais, j'avais des carapaces sous les yeux tellement je dormais pas et que je sortais beaucoup. Donc, quand on est dans une école de curé où tout le monde veut la réussite, tout le monde veut être le chef d'entreprise successful et moi, je m'en foutais un peu. Donc voilà, chacun son parcours, mais voilà, je pense que c'est fondateur.
C'est clair. Et comment est-ce qu'on devient DJ du coup ? C'était quoi les étapes en fait de ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui ? C'est quoi les grands moments clés de ce que tu as vécu ? Donc de toi qui allais à ces soirées, qui était fan de ces sons, de découvertes, etc. C'était quoi les premières étapes de toi qui monte sur scène, du coup, pour combattre cette timidité déjà pour commencer. Mais si tu devais me retracer très rapidement ton parcours avec tes mots et comment tu les as vécus, surtout ces grandes transitions.
La première étape, c'est de se prendre la tête avec ses parents. C'est-à-dire que je passais mes journées à mixer chez moi très fort. Donc forcément, je mixais une musique quand même assez rapide à l'époque. 140 BPM, c'est de la techno quand même assez dure. Et donc forcément, quand t'es chez toi, c'est pas très agréable quand t'entends ça non-stop. Donc c'était la première étape. La deuxième étape, pour vaincre la timidité, je l'ai pas vaincue moi-même, très honnêtement. C'est mes potes qui un jour ont mis un nom sur un flyer sans me dire que c'était moi. C'est-à-dire qu'ils ont marqué le nom Agoria sur le flyer. On faisait des soirées qui s'appelaient Agora. Ils ont marqué Agoria sur le flyer. Donc déjà, j'ai pas choisi mon nom.
Ah.
Ils ont marqué le nom d'Agoria et c'est comme ça en fait que je me suis retrouvé un jour à aller jouer. Ils m'ont dit une heure avant, tiens, c'est toi qui dois jouer, amène tes disques.
Ok.
Et donc, ils m'ont poussé un peu à le faire. Donc, j'étais assez faible sur ce coup. mais donc, voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, je me souviens, j'ai dû faire un choix.
Et qu'est-ce que tu as ressenti ces premiers moments sur scène?
Non, après, c'était un tout petit événement, il n'y avait aucun enjeu.
Oui, mais.
Pas vraiment. Je n'ai pas un souvenir impérissable de cet événement. Okay. Mais. Je faisais des études de ciné et du coup, on m'avait proposé de bosser sur un long métrage à Londres de James Ivory en étant assistant réal ou de jouer pour une heure en première partie de Carl Cox à Lyon. Et à l'époque, contre toutes attentes, j'ai choisi de jouer une heure dans une soirée lambda en fait pour Carl Cox devant personne, hein, parce que si c'est toi qui ouvres, il n'y a personne. Plutôt que d'aller travailler pendant 2 ou 3 mois à Londres pour un film, je crois que ça devait être Jefferson à Paris ou je sais plus, mais bah non, parce que c'était à Londres, c'était pas celui-là, mais je sais plus quel était le film de James Ivory, mais voilà, plutôt un chouette, enfin, si tu fais des études de ciné, normalement, tu fonces parce que c'est une super opportunité. Et moi, j'ai appelé l'équipe de tournage une semaine avant en disant, bah désolé, je vous fais faux bond parce que j'ai une date pour jouer avec Carl Cox. Et là, tout le monde m'a pris pour un fou. Et ils avaient raison, puisqu'en plus, personne ne s'est mis à danser.
Ah, ça devait être dur,
pour
ça.
Mon premier show, mon vrai premier show, genre tout le monde, tu vois, ça s'appelait le Space, qui était fait une sorte de théâtre où tu vois, t'as des alcôves, et donc tout le monde était un peu en marge. Personne n'est allé danser. Et il y avait Richie Hawtin ce soir-là aussi. Richie Hawtin arrive juste après moi. Il met un premier disque. Tout le monde est venu danser. Donc je me suis retrouvé, j'ai pas sorti la tête des backstage parce que je me suis dit mais je pense que j'ai fait le mauvais choix, le cinéma c'était pour moi plutôt, tu vois.
Ah oui.
Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait mon premier show.
Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé rapidement.
C'est
tu vas comprendre un peu les étapes clés qui ont fait que tu as suivi cette voie en fait malgré toi.
C'est que je suis, j'avais envie en fait. Simplement, c'est que j'avais envie.
Oui, c'est important.
Et donc, après, c'est des petites communautés à l'époque. Donc, de fil en aiguille, quand tu fais ça, petit à petit, les gens t'invitent pour mixer. D'abord, tu fais Lyon-Dijon, Lyon-Belfort. Puis après, tu fais Lyon-Paris. Puis après, tu fais Lyon-Berlin. Tu vois, la Love Parade, ça a été un de mes premiers événements en dehors de France. Et c'est vrai que la Love Parade, c'était quand même 1 million de personnes dans la rue. Et là, je me suis dit, quand même, il se passe un truc.
Ouais.
Ça valait la peine d'aller ne serait-ce que jusque-là. Et sur ce char, il y avait beaucoup de journalistes français, il y avait beaucoup de promoteurs de Paris. Et ils m'ont adoubé et j'ai commencé à jouer un peu partout. Et quelques mois après, je sortais mon premier morceau sur Pias, qui a eu un gros succès et c'est comme ça que ça a commencé.
Ok. Et qu'est-ce que tu ressentais, toi, pendant tout ce... parcours, parce que c'est beaucoup d'un coup aussi. Plus ça monte, plus tu voyages, plus tu rencontres de personnes, plus aussi tu dois t'affirmer. Je suppose que d'être un jeune DJ, la posture à avoir pour s'affirmer, pour demander à être rémunéré à ta pas l'heure, enfin, de plein de sujets très concrets.
Non, mais à l'époque, il n'était même pas question d'argent.
Oui, enfin, bien sûr, mais tu vois, de prendre cette place.
Tu t'es payé 100 francs ou 200 francs, ça permettait juste d'acheter quelques disques nouveaux chaque semaine pour les rentrer dans ta playlist, en fait. L'argent, ça n'a jamais été un moteur.
Ouais.
Je pense que. D'ailleurs, aujourd'hui, je trouve que c'est un vrai souci. C'est-à-dire que les artistes, aujourd'hui, ils veulent tout de suite avoir de l'image. Ils veulent tout de suite avoir de l'argent. Ils veulent tout de suite être successful. Mais c'est très compliqué.
Ouais.
Je pense que s'ils le sont, je ne sais même pas si c'est une chance de l'être très vite. Parce que on voit aujourd'hui quand même que les modes sont de plus en plus rapides. Que les artistes, il y en a beaucoup. C'est très difficile de rester. Donc, je ne sais même pas si c'est une chance d'être successful très rapidement.
Ouais,
moi, j'ai fait mon rythme.
Prudent.
et tu vois, c'est même pas prudent, en fait. Je pense qu'il n'y avait pas de calcul. Et puis, ce n'était pas du tout la même époque. On n'avait pas du tout l'organisation qu'il y a autour des artistes de musique électronique aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a agent, manager, éditeur... magnifique agence de RP, magnifique Gwendoline, tu vois, je dis ça, qu'elle est à côté, et en fait c'est tout est très organisé, tout est très structuré. Et à l'époque ça l'était pas, et je ressens un peu ça aujourd'hui dans ce... Je fais souvent le parcours avec le Web 3, avec ce qui se passe dans l'art digital et dans le côté NFT, etc. Je pense qu'il y a on a la même énergie aujourd'hui parce que tout est inventé. Il n'y a pas de schéma. Tout s'écrit et on a la possibilité de créer les bases qui nous font plaisir.
Ouais.
Et notamment toi, et par rapport à ce podcast, je pense que ça questionne beaucoup les systèmes de gouvernance.
Bien sûr.
Et donc, c'est quand même un bonheur de se dire qu'on peut réfléchir à quel type de société on a envie et comment est-ce qu'on a envie que en tant que créateur, en tant que participant, on a envie d'être entre guillemets valorisé, que ce soit par le fait de participer à la communauté ou juste de créer, de relayer. Enfin, c'est un système qui est très très vertueux.
Tu peux m'en dire plus justement sur ta découverte de cet univers-là et ce que tu comprends pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas du tout de quoi tu parles. Mais toi, comment est-ce que tu es arrivé dans tous ces sujets et puis qu'est-ce qui t'interpelle, qu'est-ce qui t'intéresse et justement quel conseil, piste à explorer pour ceux qui nous écoutent, pourquoi est-ce que tu trouves que c'est une aussi belle opportunité ?
Parce que tout est inventé. C'est une chance quand il y a des nouvelles tendances de fond, parce que encore une fois, je ne crois pas que ce soit une mode et je ne crois pas que ce soit quelque chose qui va disparaître. Tout est à écrire, tout est à inventer, que ce soit dans la mode, dans la musique, dans le gaming, pour les entreprises évidemment. Tous les futurs schémas de gouvernance, on peut peut-être imaginer des schémas où on n'est plus dans des sociétés pyramidales, où il y a quelques heureux bénéficiaires et beaucoup de gens qui... rêve d'être en haut de la pyramide. Et je pense que du coup, là, c'est pas mal parce que les rêves vont être autrement plus intéressants. Parce que finalement, être en haut de la pyramide, bah, c'est un peu chiant parce que t'es tout seul.
C'est clair.
Et donc, ce système de gouvernance où chacun, en fait, a son mot à dire, où chacun a quelque part, pas une sorte de pouvoir, mais une sorte de place, de choix. Qui soit elle peut être
une voix finalement, une voix
ouais. Les deux d'ailleurs, VOX et VOIE, parce qu'en fait, moi je me suis rendu compte en commençant que la plupart des collectionneurs qui ont commencé à acheter mes œuvres, en fait, étaient tellement heureux de les avoir achetées, ils ont commencé à se structurer, à créer une communauté, ils se sont appelés les Agorians. Il y en a qui est devenu ce colonel, l'autre qui est devenu le ministère de l'éducation. Même si ça reprend des schémas classiques, c'est plus des titres un peu rigolards. Et en fait, chacun est au même titre, mais chacun a envie de développer et de faire connaître. Et je trouve que c'est quand même très vertueux.
Ça, c'est une autre question que j'avais envie de te poser sur la communauté et le collectif. Déjà, toi, comment ça t'a aidé, porté pendant ce lancement de vie professionnelle et encore aujourd'hui, et là qui est particulièrement visible avec un modèle complètement différent dans le digital et dans le Web3 particulièrement. Mais je suis curieuse d'avoir, toi, ton histoire et puis ton aperçu de, en fait, quelle force du collectif, comment toi ça t'a aidé, comment est-ce que t'as été porté ou non, et comment tu t'es entouré en fait pour toujours avoir cette flamme en toi et ces bons garde-fous ou contacts ou en fait ce réseau entre guillemets, j'ai pas envie de l'appeler comme ça, mais ce groupe autour de toi qui te porte et que là tu constitues un nouveau groupe, etc. Mais quelle force en fait du collectif et à quel point pour toi ça a été important?
De toute façon, on ne peut rien faire seul. Hein.
C'est sûr.
Ou alors si, on écrit un livre tous les 2-3 ans. Mais il est très difficile de faire quelque chose seul, en tout cas. Et surtout, je trouve que ce serait d'un ennui. Enfin, quand même, partager, ne serait-ce qu'une... Il y avait ce film quand même qui m'avait marqué. Into the Wild, je crois.
Mm-hmm.
Où en fait, j'avais trouvé la métaphore très belle de ce mec qui veut... tout quitter, plaquer et partir, s'enfuir très très loin, seul, jusqu'à un moment donné où il mange une racine qui n'est pas bonne et qu'il en meurt parce qu'il est seul. Et voilà, je pense qu'on est des animaux sociaux. Moi, je m'intéresse beaucoup aux vivants, tout autant que ce soit les intelligences artificielles ou le vivant, les deux ont beaucoup de choses en commun. Et plus je découvre le vivant, plus je découvre la force des écosystèmes vivants,
puis c'est je me dis que
leur intelligence collective est extraordinaire.
La dernière chose que tu as apprise, que tu as envie de partager sur le vivant, justement, qu'est-ce qui t'interpelle?
Non, mais ne serait-ce que les plantes, par exemple, quand il y a des prédateurs qui viennent, elles envoient des c'est pas des phéromones, mais elles envoient des odeurs qui les repoussent. De la même façon que quand il pleut, la terre, pour attirer des bactéries qui viennent. Fait sortir une bactérie du sol pour attirer des vers qui viennent un peu la remettre en état. Moi, j'adore l'idée de la métamorphose. Je dis souvent ça en ce moment. Beaucoup de gens parlent de la révolution. J'aime pas le mot révolution. Parce que la révolution, ça veut dire qu'on efface, qu'on tue, qu'on remplace de façon radicale. Moi, j'aime beaucoup l'idée de la métamorphose. Déjà parce que la chenille, elle ne fait que manger, donc c'est plutôt cool. Et ensuite parce que le papillon, c'est plutôt un adepte des rencontres, du sexe, il se fait plaisir, quoi. Et j'aime beaucoup plus cette idée de me dire que l'idée de la métamorphose, c'est quand même d'avoir un corps et deux vies. Je trouve ça plutôt agréable.
C'est clair. T'en es où dans ce parcours?
Moi, j'ai toujours un corps, mais je crois que ouais, j'ai deux vies en ce moment.
Ah oui?
Ouais.
C'est quoi? Ce serait quoi les deux vies, du coup?
J'ai à la fois cette vie de, entre guillemets, de l'artiste qui fait de la musique, mais j'ai aussi celle-là de celui qui est très impliqué dans la création digitale et dans la réflexion digitale.
Ouais.
Qui me semble totalement complémentaire, mais c'est deux vies assez différentes.
Et aujourd'hui, comment est-ce que t'as perdu parfois ta fièvre de vie, ta passion pour la musique électronique, comme c'est le sujet dont on parlait au départ. Mais forcément, j'ai eu quelques interviews de personnes plutôt dans le théâtre, dans le stand-up, aussi globalement, même en entreprise. Hein, mais cette flamme qui peut t'animer au départ, là, ça fait 25 ans. Est-ce que tu peux me raconter aussi si parfois elle affaiblit, et justement, comment tu t'es métamorphosée, réinventée au fur et à mesure pour rester connectée à quelque chose que tu aimes et que tu as envie de faire au quotidien?
Il y a plein de fois j'ai voulu arrêter la musique. Je crois que j'étais en Italie parce que j'ai vécu en Italie un petit peu et j'avais mon ex-femme avec qui ça se passait très très mal et en gros c'était un peu si tu veux qu'on reste ensemble pour arrêter la musique et qu'on ait une vie entre guillemets plus classique, et je me suis vraiment posé cette question par amour. Mais en fait, c'était tellement un mauvais choix. Parce que déjà, par amour, personne ne va te demander d'arrêter quelque chose. Parce que c'est horrible. C'est déjà un manque d'amour. C'était un manque déjà d'amour de sa part. Mais ça m'a quand même vraiment perturbé pendant 2-3 ans. Mais pendant 2-3 ans, voilà, c'était un peu un combat entre moi, mes souhaits, mes choix, la vision que j'avais peut-être de ma vie, où j'avais fondamentalement tort. Et moi, je suis pas un mec de conflit.
Ouais.
Donc, je préfère parfois prendre sur moi. Et puis, j'avais un peu cette idée de, que voilà, peut-être que j'étais, j'allais pouvoir sauver cette personne de ces idées qu'elle avait envers moi. Et, en fait, ça fonctionnait pas, tout simplement. Mais il m'a fallu quelques années.
Mmh.
Donc, et là, j'ai rencontré une personne formidable qui s'appelle Brigitte Macioni, qui est aujourd'hui la directrice du GC, qui m'a sorti un peu la tête de l'eau, ainsi qu'avec mes potes. Et tous ensemble, ils sont... voilà, ils m'ont dit, mais non, mais ça va pas la tête. Donc, ils ont quasiment déménagé ma vie. pour moi, mes potes, tu vois, je suis arrivé à Paris sans connaître personne. Et voilà, c'est là que tout a un peu rebasculé.
Mmh. Ça, c'était il y a combien de temps ?
C'était il y a 8 ans, je pense.
Et aujourd'hui, tu me parlais de voyage, mais c'est une très belle vie aussi de autant voyager, d'être autant partout. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué plus dans cette vie qui est quand même aussi très intense à tenir dans le temps, je suppose, mais qu'est-ce que ça t'a apporté, tous ces voyages, toutes ces rencontres ?
Déjà, en fait, quand j'étais gamin, je voulais pas partir de chez moi.
Ok.
J'avais peur. C'était impossible. Tu vois, je voulais pas partir. C'était trop compliqué pour moi. Et aujourd'hui, c'est l'inverse, en fait. Mais vraiment, j'étais un sédentaire pur et dur. Et là, j'ai été payé quand même, c'est un privilège pour faire le tour de la planète. Moi, je dis souvent que je ne suis pas payé pour jouer, mais je suis payé pour voyager. Mmh. C'est quand même un privilège de dingue. C'est, je sais pas, un jour, tu es à Tokyo, le lendemain, t'es aux États-Unis, puis après, tu vas au Brésil, tu vas en Afrique du Sud. Je crois que ça m'a aussi appris beaucoup de choses sur l'acceptation de chacun.
Ah oui ?
Je pense que...
Quel sens ?
La musique électronique, c'est une musique universelle où il n'y a pas de langue.
C'est sûr.
Il n'y a pas la barrière de la langue, tu peux l'interpréter de la même façon partout où tu es. Et chaque fois que j'ai voyagé, j'ai malgré tout ressenti que chacun avait une façon différente de la vivre. Même s'il n'y avait pas cette barrière de la langue.
Mm.
Si tu vas au Japon, tu ne vas pas être tout de suite invité à dormir chez les Japonais, à vivre avec eux. Si tu vas au Brésil, tout de suite, une fois que tu as fini de mixer, c'est quasiment tu vas en after chez eux, tu es un ami de la famille... Mm. Et j'ai beaucoup appris de ces relations humaines. Et la plupart, en fait, et j'ai des potes qui sont du coup dans le monde entier très très différents les uns des autres.
Mmh.
Et même si on aime tous la même musique, ou si on a vraiment des affinités proches sur des styles de musique, sur des niches, parce que la musique électronique c'est une niche, on a tous des façons différentes de la vivre.
Super intéressant, ça t'a beaucoup nourri, je suppose. En fait, c'est une aventure très humaine, finalement, de plonger dans des cultures, en fait, à chaque fois différentes, des sensibilités où c'est des portes d'entrée dans un monde beaucoup plus vaste. C'est super. Génial. Et si on devait se replonger, du coup, pour ceux qui nous écoutent, jeunes actifs, étudiants rêveurs ou non, angoissés peut-être aussi pour certains, là, si tu avais un message que tu voulais leur faire passer sur on n'en a pas un peu parlé, mais sur suivre ses rêves et se faire confiance, parfois aussi accepter de galérer peut-être, ou d'attendre et de ne pas être impatient non plus. Quel message t'aurais à faire passer à ceux qui nous écoutent, qui commencent tant bien que mal un début de vie active, si on peut l'appeler comme ça?
Aujourd'hui, le vrai conseil que je donnerais, c'est d'imaginer le monde non pas uniquement par le prisme qu'on voit.
Mmh.
Et ça peut paraître un peu bizarre, mais le monde qu'on voit n'est pas forcément celui qui existe.
Mmh.
Et donc, il faut beaucoup plus s'attendrir sur le monde qu'on ressent.
D'accord.
Et la plupart du temps, on ressent un monde vraiment différent de celui qu'on voit. Et je pense que ça arrive à tout le monde quand on rencontre quelqu'un. On sent tout de suite qu'on a des affinités. Mais c'est pas parce qu'on le voit, cette personne. C'est qu'il y a un lien quasiment animal et physique qui se passe avec cette personne. Et la façon dont on ressent les choses, la façon dont on voit les gens, n'est pas la même. Du coup, je pense que c'est... Quelque part, c'est évidemment plus s'écouter soi, sans aucun doute.
Clair.
Mais je pense qu'il faut être alerte et faire beaucoup d'expériences personnelles de vie. Donc ça peut être des expériences parfois cosmiques, des expériences limites chamaniques, ça peut être des expériences de... ça peut être des rencontres aussi. Hein. Mais je pense qu'avant même de se dire « Oh là là, je veux réussir, je veux faire ci, je veux faire ça », mon vrai conseil, ce serait de se connaître un peu.
Ouais.
Et souvent, on se lance sans savoir vraiment qui on est.
C'est sûr.
Et ça devient très compliqué. parce que...
Et on projette sur soi beaucoup d'attentes des autres, tu en entends parler au départ.
Et donc, je pense qu'il est, voilà, évidemment, voyager, c'est, si on en a la possibilité, parce que tout le monde n'a pas la possibilité. Mais justement, le Web 3 est là. Moi, qui étais un grand fan de Star Trek, et Star Trek nous ont vendu que la téléportation était un truc physique, il se pourrait que la téléportation, ce ne soit pas un truc où on va visiter les autres mondes, mais c'est les nouveaux mondes qui viennent nous visiter. Mmh. Et donc aujourd'hui, on a la possibilité vraiment d'avoir tous ces mondes qui viennent vers nous. Je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Il faut considérer ça, pardon, un peu comme une réalité mixte où on va avoir un monde physique tel qu'on connaît, qu'on peut voir. Mais nos yeux, je le répète, nous mentent continuellement. Et donc, il faut aller beaucoup plus sur le ressenti. Et je pense que malgré tout, le Web 3, et même si c'est quelque chose qui est algorithmique, même si c'est quelque chose qui est digital, même si c'est quelque chose qui va être auto-créé, va nous aider à nous connaître plus nous-mêmes.
Dans cette notion de se reconnecter à sa perception.
Ce qui, en fait, va aux antipodes de ce que tous les gens racontent. C'est, c'est factice, c'est virtuel, c'est faux. Je pense totalement l'inverse.
Se faire confiance et puis explorer, en fait. C'est ça ton conseil, si je le reformule, mais c'est vraiment de...
Je te laisse les mots de la fin.
Non, mais c'est super... je pense que c'est hyper important, en fait, de se faire confiance et d'oser voir ce qu'on ne connaît pas et surtout de s'écouter parce que, comme tu le dis, en fait, on est beaucoup à voir et à être dans le rationnel et à faire ce qu'on pense, soit pour nos parents, nos amis, là où on a grandi, etc.
Non, mais là, je parle vraiment même... c'est plus ce qu'on a dans les tripes.
Ouais.
Je parle pas vraiment du... Là, il s'agit pas de trop le regard des autres. Et c'est vraiment ce que... Je pense qu'il y a énormément de possibilités, énormément d'accès aujourd'hui à plein de médecines, qu'on peut appeler médecine d'ailleurs, mais qui sont plus des expériences. Ouais. Enfin, après, je connais pas trop les auditeurs, donc je vais pas trop en raconter non plus. Mais il y a beaucoup... Je vais pas aller trop pousser non plus le truc, mais...
Oui, c'est tester des choses, expérimenter et pas forcément se limiter trop à ce qu'on connaît, parce qu'on peut découvrir des choses extraordinaires. Ok, mais c'est un super mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, que tu aimerais ajouter ?
Écoute, je pense que tout le monde aurait été ravi d'avoir Jasmine comme amie, et qu'il soit là pour émanciper et pour tirer tout le monde vers le haut. Je trouve que c'est... bravo à toi, bravo pour ce podcast en tout cas.
Merci beaucoup.
Vous venez d'écouter Vocation, le podcast qui informe, inspire et célèbre la nouvelle génération qui veut s'épanouir dans sa carrière. Je suis Jasmine Manet et tous les dimanches à 18h, un nouvel épisode sort sur le podcast. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes audio, nous laisser plein de petites étoiles sur Apple Podcasts et surtout, surtout, en parler autour de vous. C'est vraiment ce qui nous aide le plus à se faire connaître. Enfin, rendez-vous sur Instagram pour rejoindre la communauté, faire connaissance et nous partager vos retours. @vocation.co, c'est là que je suis le plus active. À la semaine prochaine !